Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM. Souvenir
FM. Bonjour à toutes et à tous, merci David, on te retrouve tout à l'heure. C'est l'invité du 12-13, votre émission préférée qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, on a pas mal de monde dans le studio, on va bientôt atteindre notre record. Alors nous avons Mathieu Forçant, accompagné d'Hervé Etchemendi, qui représente l'association EIMA. Alors c'est l'acronyme de Allons imaginer un monde d'amitié. Donc voilà, déjà, on donne un petit peu le ton de l'émission. Voilà. Et nous avons aussi Charlotte Frénard, responsable des achats chez FMS, qui est Facility Multiservice, qui est, bien sûr, on en parlera, mais qui est assez connu quand même dans le coin. Bonjour tous les trois, comment allez-vous?
Ça va bien.
Bonjour.
Et bonjour.
Très bien. On va passer une petite heure ensemble, on va découvrir vos actions, comment ça se passe. On va d'abord écouter le Flash Info national et international. Et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. A tout de suite. Et c'est parti, on retrouve nos invités. Alors, la tradition, c'est de demander aux invités une petite trajectoire personnelle, une petite bio. Si vous voulez bien nous raconter un petit peu qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à ce jour qui les a amenés aujourd'hui à ce micro. Et donc, je crois qu'on va, être obligé de faire d'abord demander à madame.
Eh bien, merci. merci Jean-Philippe et puis merci à vous de m'accueillir au sein de votre radio. Donc, moi, je suis Charlotte. Du coup, j'ai une quinzaine d'années d'expérience dans les achats et dans des grands groupes. Et puis, j'avais envie d'avoir un métier toujours dans les achats, mais avec un peu plus de sens. Mmh. Et j'ai eu la chance de rencontrer FMS, Facility Multiservice. Et aujourd'hui, ça fait un an que je travaille à leur côté pour pouvoir construire et développer et continuer à accompagner la mission de FMS, qui est l'emploi des personnes en situation de handicap.
Oui, tout à fait. Bon, on aura l'occasion, bien sûr, au cours de cette émission, de développer un peu, de parler d'FMS, qui est quand même un peu connu quand même dans la région, hein, mais bon, de voir comment ça fonctionne et le cercle vertueux qu'il fait tourner. Merci beaucoup. Alors, on va passer maintenant peut-être à Mathieu ou à Hervé. Qui c'est qui se lance?
Allez, ça va être moi. Mais du coup, Hervé, mon parcours professionnel, c'est que je viens du commerce. J'étais commercial itinérant pendant plus de 20 ans. Et du coup, je cherchais, un peu comme, on va dire comme Charlotte, une autre orientation. Du coup, l'associatif, ça m'a beaucoup intéressé. Mmh. Et du coup, moi, je suis au niveau d'EIMA, je suis chargé du développement des ventes et des relations avec le professionnel. Du coup, c'est orienté la sensibilisation vers le réemploi et l'économie circulaire, essentiellement.
Très bien. Merci beaucoup. Mais alors, il nous en reste un à cuisiner maintenant.
Et bien moi, je suis Mathieu Forçant. Je suis co-directeur en charge du pôle des services généraux. Et je suis chez EIMA depuis 3 ans. Donc, j'ai que 22 ans. Donc, c'est ma première expérience professionnelle à EIMA. J'ai rejoint EIMA parce que je cherchais du travail pendant mes études. Et je suis tombé sur cette association de mon territoire, puisque j'habite à Saïs de Béarn. Mmh. Et j'ai commencé en service civique et au bout de 2 mois, je suis passé en CDI pour restructurer l'association. D'abord, la partie administrative et RH qui était inexistante. Mm-hmm. Puis, au fur et à mesure, on a développé d'autres pôles et services de l'association puisque l'association a grandi d'un coup et qu'il fallait structurer toute cette partie-là.
Oui, alors, c'est intéressant de votre témoignage parce que vous êtes un petit peu un exemple de ce à quoi, entre guillemets, EIMA sert. Hein, c'est-à-dire, on va insister sur ça, on n'en a pas leur antenne, mais c'est vrai que dès qu'on parle de recyclerie, etc., on pense en premier lieu à l'aspect, on va dire, écologique de la chose. Mais en fait, l'aspect social et humain, c'est le premier objectif de ce genre de structure, hein, donner du travail.
Bien sûr. Nous, notre... Donc, EIMA a été créé en 2002 par Sigrid et Bernard Dumas, qui sont les fondateurs et toujours l'actuelle présidente et trésorier de l'association. Et l'origine d'EIMA, c'était une association humanitaire. Mais qui, au fil de ces années, a développé son modèle économique en créant tout simplement des ressourceries sur le territoire. Et au fil des années, l'activité ben, s'est développé. Mmh. Et aujourd'hui, on a 40 salariés. On a fait le choix en 2018 de professionnaliser l'association en arrêtant, avant, à l'époque, on n'avait que des contrats aidés, en arrêtant les contrats aidés pour pérenniser l'emploi en milieu rural.
Oui.
Et on a transformé ces contrats aidés en CDI. Mmh. Et c'est toujours notre vocation de maintenir l'emploi en zone rurale.
Oui. Après, c'est bien aussi de cette démarche-là, l'intérêt qu'elle a aussi, c'est de se... comment dire, éviter la contrainte d'avoir une épée de Damoclès tout en dessus de la tête, hein. Cette indépendance, ça permet aussi de pas être toujours assujetti à des subventions de tel ou tel organisme. Voilà, c'est après, c'est parce que vrai quand on prépare, je prépare une émission en voyant les chiffres et tout, on dit, j'ai regardé, ah oui, c'est vraiment une association en fait, parce que c'est gros. Enfin, je veux dire, le chiffre d'affaires, le nombre de personnes impliquées, le tonnage, c'est assez impressionnant quand même pour une association, c'est quand même, voilà.
C'est une belle réussite, hein, c'est sûr.
Voilà, oui. Oui, alors vous qui faites partie des FMS, c'est aussi une entreprise qui a connu une croissance fulgurante aussi quand même.
Ouais, extraordinaire, hein. C'est sûr que la société, elle a été créée il y a plus de 15 ans maintenant par Fabrice Abadia et Cyril Guesso. Et aujourd'hui, on est un peu moins de 1000 salariés avec 11 sites. Donc c'est une vraie réussite, hein. Facility Multiservice, c'est une entreprise qui est là pour créer de l'emploi sur des personnes en situation d'handicap. Et aujourd'hui, bah, ils ont fait un pari autour de 5 grands métiers, hein, qui sont l'informatique, la logistique, le textile, le bâtiment et la formation, ouais, de créer de l'emploi. Et aujourd'hui, 66% hein, de notre masse salariale est en situation de handicap.
Oui. Alors moi, j'ai une question un peu incongrue, mais je veux dire, voilà, quand on grossit trop vite, hein, ou comme les femmes enceintes, on peut avoir des vergetures. Alors, hein, quelles sont vos vergetures? C'est-à-dire, est-ce que cette croissance-là, aussi rapide et tout, qu'est-ce que ça a causé comme désagrément, comme difficulté, hein? Parce qu'on peut se poser la question de ce rapidité de croissance.
Alors, tout à fait. Ça, c'est sûr que ça crée des difficultés quand on grandit. En fait, nous, la principale difficulté qu'on avait à l'époque, maintenant on arrive à la colmater, c'était tout simplement le management, le fameux qui fait quoi. Et en fait, on a misé sur l'ouverture des ressourceries, de plusieurs ressourceries. Ils en avaient oublié à l'époque la structuration RH qui est quand même importante, c'est un fondement important de toute structure.
Ben oui.
Et en fait, nous, on a une amélioration continue dans nos process, dans nos structurations. On vient de finir un dispositif local d'accompagnement là-dessus pour revoir notre gouvernance et notre mode de fonctionnement. Donc, quand on grandit vite, il faut pas oublier ce qui structure une association aujourd'hui, enfin, ou une entreprise.
Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu les problèmes, c'est un peu similaire, hein, j'imagine. Hein, oui.
Oui. C'est ça.
On parle de RH, on utilise des termes du monde de l'entreprise, c'est les mêmes contraintes.
C'est ça, et aujourd'hui, il y a aussi, bon, évidemment, le problème économique. C'est quand on grandit trop vite, il faut des ressources financières suffisantes. Nous, on a de la chance d'être une association, donc on peut prétendre à des subventions, et ça fait partie de notre chantier pour 2026, d'aller chercher des subventions et surtout du mécénat auprès des entreprises et des collectivités.
Oui, bien sûr, avec toujours ce fameux 66%, peut-être un peu plus là, quand on fait un don défiscalisé, l'agrément pour que les gens qui font des dons puissent défiscaliser une partie.
Tout à fait. Alors, c'est principalement chez nous, les entreprises, quand elles achètent chez nous ou elles nous donnent.
Alors, c'est pas le même pourcentage, les particuliers, les entreprises.
On peut donner un reçu fiscal, mais c'est plutôt les entreprises et les donateurs.
Oui, voilà, oui. Alors, on va s'y découvrir un peu. Alors, vous êtes domicilié où? Le siège, entre guillemets?
Alors, le siège de l'association est à Osserain-Rivareit, un tout petit village
que je découvre,
qui a la particularité d'être béarnais et basque, les deux. Donc, qui est à côté de Saint-Palais et à côté de Sauveterre. Et en fait, on a aujourd'hui 5 ressourceries.
Oui.
Donc, il y en a une à Osserain aussi, en plus du siège social. Il y a la ressourcerie historique qui est à Cam, qui fait que du particulier. On en a une à Salis-de-Berne, ce qu'on appelle une ressourcerie multiflux, qui fait et du particulier et du professionnel.
D'accord.
On en a une à Castetnau-Camblon, à côté de Navarinx. Et on en a un dernier, mais c'est une ressourcerie à part, qui est notre pôle humanitaire et médical.
D'accord.
Et auquel on collecte Donc là, il n'y a pas de vente, c'est pas ouvert au public. On collecte du matériel médical.
D'accord.
Et c'est sur ce site-là qu'on prépare les convois de solidarité internationale.
Mais oui, voilà, on va en parler, ouais, parce que c'est vrai que ça fait partie de ce que vous faites. Et ça, c'est chouette. Hein. C'était un signe attendu, d'ailleurs, en préparant. J'ai dit, tiens, ah, mais ils font aussi ça, en fait. Et donc ça, c'est le petit, la petite cerise sur le gâteau. On va faire une petite première pause, hein, un petit peu de musique, on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et voilà, c'est reparti. Oui, effectivement, on parlait de la taille d'Aima, qui est quand même, voilà, c'est assez conséquent, parce qu'il y a plusieurs endroits où on peut vous retrouver. Donc, alors moi, j'ai des petits chiffres, 1000 visiteurs par semaine, enfin, c'est une moyenne, évidemment, c'est... Et puis, il y a des adhérents aussi. Alors, les adhérents, c'est quoi ? C'est des entreprises ou c'est aussi des particuliers ?
Alors, pour venir et acheter dans nos ressourceries, il faut obligatoirement payer une adhésion qui est de 1 euro symbolique. Et, oui. Et aujourd'hui, on a, notre typologie d'adhérents, c'est principalement du particulier. Mais on travaille avec un peu plus de 4000 adhérents entreprises en 2025.
Mmh. Alors, une chose qu'on n'a pas précisé, donc c'est que vous êtes une spécialité. Hein, vous n'êtes pas une recyclerie, on peut trouver un peu de tout, a priori. On est vraiment sur du matériel, on va dire, professionnel. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? Donc, ça concerne quoi et qui ? Où trouvez-vous ça, d'ailleurs ?
Allez, c'est pour moi.
Allez.
Du coup, oui, alors on fait du mobilier professionnel, du mobilier particulier. Mm-hmm. Alors, du mobilier particulier, c'est des dons, des apports volontaires. Mais dans certains cas, on peut aller chercher aussi. Mmh. Il y a tout ce qui est vêtements également, oui. Tout ce qui est sport. Alors ça peut être vêtements comme des vélos, mmh. comme des ballons. Et dans le cas du mobilier professionnel, nous, on a un réseau de donateurs oui. sur toute la France. Mmh. Ce n'est pas que local. Hein.
Oui.
Donc les plus gros gisements, on appelle ça des gisements. Mmh. Alors, c'est par semi, hein, c'est par semi-remorque, oui. les chargements.
Oui, parce que vous avez une flotte de camions.
Voilà, exactement. Alors quand on est au national, tout ce qui est Paris, ça va être des sous-traitants. Mmh. Ça va être des semis, des déménageurs. Et là, du coup, on va travailler avec des grosses entreprises parisiennes mmh. qui changent de locaux. Et c'est là-bas où on a les plus gros sites.
Et oui.
On a eu fait aussi de l'européen. Mmh. Alors, on a eu Milan, on a eu Barcelone.
Wow.
Après, on est mis en lien par des éco-organismes. Mmh. C'est pour ça qu'on peut le faire. Nous, essentiellement, c'est que des dons. Mmh. On n'achète rien.
Oui.
On va participer aux frais de transport, mmh. aux frais de déménagement aussi, ça peut nous arriver.
Oui.
Et après, tout le mobilier qui arrive chez nous, il va être trié. Alors nous, on met des critères. On va, parce que nous, on réemploie en l'état. Mmh. On fait pas. C'est la différence entre ressourcerie et recyclerie.
Oui, voilà.
Nous, c'est que ça va être revendu en l'état. Mmh. Or, justement, on fait très attention à ce qu'on prélève,
oui, en
ce
amont,
qu'on prend.
Ouais. Ouais.
Et en grosso modo, on va être par rapport au prix neuf, on fait une recherche du prix neuf du produit. Mmh. C'est souvent marqué parce que comme c'est du produit professionnel, mmh. il y a des marques qui sont référencées, des marques qui sont connues.
Et oui.
Les prix neufs, on peut les trouver facilement. Mmh. Et nous, en fonction de ça, on va être en moyenne 3 fois moins cher que le prix neuf.
D'accord.
Du coup, derrière, ça peut être intéressant de le reproposer à des collectivités,
oui.
Ben pour qu'elles soient dans le respect de la loi AGEC, mmh. qui les oblige en fait à acheter 20% de mobilier
oui.
de réemploi.
Voilà, ça c'est une loi que je ne connaissais pas, ben c'est bien que ça existe, parce que voilà, mmh. ça force à faire un petit peu, à passer par ce circuit-là. Hein.
Tout à fait, oui. et quand on parle aujourd'hui de budget, on est une des solutions pour répondre à ces attentes-là.
Oui.
Tout ce qui est entreprise, tout ce qui est réglementation RSE, mmh. responsabilité sociétale et environnementale,
oui.
ben nous, comme on est dans l'ESS, mmh. L'économie sociale et solidaire, mmh. De la même façon, on répond, on les accompagne dans ces solutions-là.
Oui, donc je comprends bien là, quand vous dites à quel point vous étendez votre zone de récupération, que vous avez une croissance qui a été importante et qui n'est pas finie, je pense. Alors comment est-ce que vous en êtes venu à avoir des partenaires aussi éloignés, justement ?
Alors ça, c'est notre présidente qui, ouais. qui fait le travail mmh. justement de collecte de gisements, mmh. Mais où il y a des salons. Et en fait, c'est même pour les entreprises, les fabricants de mobilier, mmh. C'est eux qui au départ payent cet éco-organisme-là.
Oui.
Et eux, ils ont une obligation en fin de vie,
oui.
mais de recycler
d'accord.
leur mobilier. Donc, alors, il y a le recyclage, il y a le réemploi. Le réemploi, c'est la solution, on va dire, la moins chère, de pouvoir réutiliser, de pouvoir augmenter la vie. Mais après, c'est côté environnement, c'est une très bonne chose aussi par rapport à, au bilan carbone.
Et bien sûr.
Parce que où on allonge la vie d'un produit, ça permet de, enfin, on va dire, pas de moins fabriquer, mais... si quelque part on fabrique moins, mais celui qui utilise un produit de réemploi, qui est malgré tout toujours en bon état, parce que souvent c'est des produits qui sont garantis 10 ans, et on a beaucoup de sociétés françaises et européennes qui sont déjà dans une démarche que quand ils fabriquent leurs produits, les matériaux qu'ils utilisent sont déjà issus du recyclage. Donc on continue ça parce que la matière première, aujourd'hui elle est très chère, et c'est ça qui aujourd'hui est défavorable dans le bilan carbone, et tout le monde travaille dans ce sens-là.
Ouais, bon, après c'est un gage de qualité dans le sens où si effectivement vous êtes obligé de vous faites pas de recyclage, de remise en état, que ce que vous récupérez c'est donc tel quel, ça veut dire que si vous le revendez c'est qu'il est en bon état, donc du coup c'est un gage de qualité pour les gens qui vont venir acheter chez vous.
Ben, tout à fait, après ce qui arrive aussi c'est que des fois on a du mobilier qui arrive en mauvais état, alors si on peut faire des petites réparations on les fait, ce qu'il y a c'est que nous on fait zéro déchet, ça veut dire que nous chez nous il y a des bennes, mais c'est justement des bennes de recyclage, nous on est la première étape et après ça va en recyclage.
Alors donc vous avez peut-être des partenaires qui eux vont d'autres organismes, quand on parlait de recyclerie, qui vont récupérer ce genre de choses, qui vont eux les remettre en état pour les remettre dans le circuit.
Alors il y a une filière qui est déjà organisée, alors nous on travaille essentiellement avec Valdélia, Ecomaison, pour tout ce qui est mobilier professionnel.
D'accord.
On a Écosystème pour tout ce qui est D3E, tout ce qui est appareil électrique et électronique, de la même façon, et après on a ReFashion pour tout ce qui est vêtements.
D'accord.
Tout à fait. En fait, nous, en fait, les éco-organismes, en France, ils ont... donc, ce sont des entreprises à but non lucratif. Ils n'ont pas de lucrativité à faire sur leur activité. En fait, c'est le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire que les metteurs en marché, les fabricants, se sont réunis pour organiser la fin de vie de leurs propres déchets en France. Donc, c'est organisé par filière. Donc nous, comme l'a dit Hervé, on est rattaché à 5 éco-organismes, chacune une filière spécialisée. Et en fait, aujourd'hui, nous, quand on réemploie du mobilier, on reçoit un soutien à la tonne réemployée. Et ça, c'est les éco-organismes qui nous redistribuent cet argent-là. Et en fait, c'est l'éco-contribution que payent les particuliers et les entreprises qui servent à financer les éco-organismes.
Oui, alors ces fameuses éco-contributions, des fois, on voit bien qu'on les paye des cons, hein, on les voit sur la facture, ce petit truc, on se dit toujours, bon, à quoi ça sert, on m'a encore fait payer un truc en plus, voilà. Donc ça sert à quelque chose.
C'est ça, c'est redistribué aux acteurs de l'ESS.
Mais oui, voilà, c'est bien de le dire, hein, parce que c'est vrai que des fois, comment dire, dans le millefeuille administratif, il y a tellement de choses et on est un peu perdu. Hein, faut quand même avouer que des fois on est perdu, c'est normal. Je voulais parler aussi, là, donc il y a plusieurs secteurs, notamment le médical, le matériel médical. Alors j'imagine que ça peut être effectivement un hôpital ou une clinique qui renouvelle son matériel, mais aussi, il arrive aussi qu'en tant que particulier, on a une personne âgée dans la famille qui finit par décéder, qui avait elle-même à domicile du matériel médical. Des lits médicalisés, ce genre de choses, ça aussi vous récupérez.
Tout à fait, nous l'humanitaire est le cœur de notre association, c'est notre secteur d'origine, donc nous on collecte le matériel médical auprès des hôpitaux et des particuliers ou des EHPAD et des maisons de retraite, des instituts médico-sociaux et en fait on n'a pas le droit, à cause de normes en France, de réemployer ce matériel et ce mobilier-là en France.
D'accord.
Du coup, on travaille avec des hôpitaux et des instituts médico-sociaux à l'étranger, en Europe et partout dans le monde, où tout simplement on leur donne une seconde vie en fonction de ce qu'ils ont besoin. Donc il y a toute une équipe chez nous qui s'occupe d'identifier le besoin en amont. Il y a une équipe de collecte de collecte médicale. Et en fait, ça peut venir parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un changement de mobilier, de matériel, mais aussi c'est une question de normes, surtout sur les lits médicalisés.
Oui, j'imagine.
Il suffit que la norme sur les barreaux.
Dès que c'est technique.
C'est ça. Dès que c'est technique et que la norme change, ils se débarrassent de tout.
Oui.
Ou évidemment les fermetures de lits d'hôpitaux.
Voilà.
Donc, nous, on les récupère et on donne une seconde vie dans des institutions et dans des hôpitaux à l'étranger qui sont dans le besoin et qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir ce matériel-là en neuf.
Et oui, bien sûr.
Et voilà.
Oh, très bien
aussi. Et depuis septembre, c'est important de le souligner, on a un atelier biomédical où on collecte maintenant des dispositifs médicaux. Mmh. Et ces dispositifs médicaux sont reconditionnés, on va dire, dans notre laboratoire biomédical. Mmh. Et pareil, on lui donne une seconde vie à l'étranger.
Très bien. Bon, on va parler de cet aspect-là un peu plus dans la partie suivante et aussi de votre interaction avec FMS. On va voir comment vous travaillez ensemble. On va d'abord écouter le flash info local, un petit peu de musique. On se retrouve tout de suite après ça. Alors, on va parler aussi de cet aspect humanitaire. Donc, parce que, voilà, vous organisez des convois et... notamment même en Ukraine, d'après ce que j'ai vu en préparant. Alors racontez-nous ça un petit peu.
Tout à fait. Dès le début de la guerre en Ukraine, il y a eu une forte mobilisation de dons et de, enfin notamment d'apports volontaires aussi, qui se sont faits. Du coup, l'association a structuré tout ça avec un appel à bénévoles pour trier tout ce qui était vêtements, les médicaments, tout ce qui était aussi le matériel d'aide d'urgence, c'était du particulier, donc c'était tout ce qui était pansements, médicaments notamment. On organise plusieurs convois humanitaires par an, notamment là en 2025, 5 en Ukraine. Donc là, c'est toujours pareil, c'est de la collaboration avec des structures sur place.
Oui.
Et qui passent. Enfin, c'est une logistique quand même particulière, puisque bon, le contexte en Ukraine, c'est la guerre.
Oui, mais c'est compliqué, oui.
Oui.
C'est, ouais.
Donc souvent, les camions vont jusqu'en Pologne et ensuite, il y a d'autres acteurs sur place qui prennent le relais.
Bien sûr. Ouais. Alors, historiquement, d'où ça vient ? C'est arrivé quand, ça ? Vous avez commencé par ça dans le fonctionnement d'AIMA ou c'est, comment ça s'est passé ?
Alors, ça vient de notre présidente.
Encore elle.
Sigrid. Eh oui, c'est notre tête pensante.
Oui.
Alors, elle est d'origine lituanienne.
D'accord.
Et donc, c'est sa famille, notamment sa mère, qui est lituanienne.
D'accord,
et qui a toujours grandi dans un esprit de solidarité.
Mmh.
Et c'est pour ça qu'à la base, AIMA, c'était une association humanitaire.
D'accord.
Puisque c'était récolter des sous pour financer une action d'abord. Donc, l'humanitaire a commencé en Lituanie.
D'accord.
Pour récolter des sous pour financer de l'envoi de matériel. Enfin, de bien, on va dire, là-bas. En
D'accord. Ah, très bien, c'est intéressant. On va se tourner un petit peu vers Charlotte. Alors, comment est-ce que vous travaillez et pourquoi avec AIMA ? C'est intéressant, ça, à savoir.
Et oui. Enfin, tout le monde doit se poser la question pourquoi FMS est là. Et
voilà.
Du coup, en effet, nous, on a fait un choix sur l'aménagement de nos sites, hein, porté par Cyril Guesso et Fabrice Abadia. Aujourd'hui, on est un peu moins de 1000 salariés, donc il faut équiper de bureaux, de chaises, d'espaces de restauration. Et aujourd'hui, le choix donc de FMS, c'est la seconde main. Donc, nous aménageons tous nos sites avec l'association AIMA. Mmh. Aujourd'hui, tout ce qu'on a besoin pour nos collaborateurs vient des hangars et on travaille en collaboration et en proximité avec Hervé pour pouvoir répondre aux besoins de tous nos collaborateurs sur tout ce qui est mobilier professionnel. C'est vraiment un choix et du coup l'ensemble des salariés est au courant et c'est vraiment un choix d'entreprise. Alors bien sûr que c'est peut-être pas forcément la bonne couleurs ou les bonnes dimensions.
Oui.
Notre travail, c'est s'adapter à leur catalogue pour pouvoir répondre à nos besoins tout en ayant cette valeur qu'on porte chez FMS, c'est la solidarité.
Mmh.
Et du coup, c'est vraiment hyper chouette de travailler comme ça. Et en plus, sincèrement, moi, je vous invite à venir voir nos locaux parce que c'est beau, c'est du design. Enfin, on n'a vraiment pas l'impression qu'on est sur du réemploi. Et on voit qu'il y a un travail au départ de l'équipe d'AIMA sur le choix du mobilier qui collecte c'est un cercle vertueux aussi et puis économiquement on s'y retrouve et du coup j'ai demandé à Mathieu le volume d'achat qu'a fait FMS. Du coup Mathieu
sur les trois dernières années 2023, 2024 et 2025 grâce à FMS. Mmh. On a réemployé 32 tonnes de mobilier.
D'accord.
Donc, qu'ils ont, eux, acheté. Mmh.
C'est énorme, 32 tonnes.
Soit une somme quand même importante de 84 457 euros.
D'accord.
Sur du mobilier de seconde main. Mmh. Donc, si FMS aurait acheté la même quantité de mobilier en neuf, je pense que la somme nette serait le triple.
Mais oui, c'est ce qu'on disait, c'est l'ordre de grandeur à peu près, oui. Bon, mais j'allais dire que c'est pas étonnant de la part des SMS, dans le sens où FMS, c'est un petit peu dans la philosophie aussi de cette société qui est un peu spéciale quand même, elle est particulière. Hein. Donc c'est vrai que non seulement, effectivement, il y a un argument financier qui est indéniable, ça, voilà, c'est normal, mais il y a aussi une philosophie qui convient à vos valeurs quand même.
Oui, c'est ça, c'est vraiment un choix des dirigeants et on va continuer. Là, on a aménagé un site dernièrement sur l'année, en avril, un dernier site, et du coup, on a aménagé l'ensemble de notre entreprise qui accueille plus de 150 collaborateurs avec du mobilier. Il y avait 88 chaises de cantine, une cinquantaine de tables, une centaine de bureaux, des caissons, des armoires, même de la vaisselle. Oui. En fait, tous nos achats de mobilier se font exclusivement chez Aima. Et puis, j'invite aux entreprises du secteur d'être dans cette démarche qui est vraiment vertueuse à tout niveau. Hein. La solidarité, l'aspect humanitaire, l'aspect réemploi, seconde vie, et puis au final, le portefeuille est gagnant aussi. Oui. Alors, c'est vraiment un combo gagnant. Et puis, Hervé et Mathieu sont super, c'est vraiment agréable, ils se plient pour répondre à nos besoins. Donc, voilà.
Alors, ils sont en train de faire non, les auditeurs ne le voient pas, ils disent non. Non, moi je rigole. Oui, et puis alors, c'est vrai que, et en plus, en vous faisant travailler, on fait travailler aussi des personnes en situation de handicap, hein, puisqu'on en a parlé un petit peu en antenne, le modèle économique, c'est aussi, les entreprises qui n'ont pas un certain pourcentage de travailleurs handicapés ont des pénalités au niveau des impôts, voilà.
Oui.
Mais en travaillant à travers vous, ils peuvent éviter ces pénalités, et du coup, ils font travailler aussi des personnes en situation de handicap.
Oui, c'est ça, en fait. Si une entreprise veut nous confier une partie de leur logistique ou une partie de leur travail informatique, effectivement, ils font travailler Facility Multiservice, et du coup, ils ne sont plus contraints de payer cette taxe handicap, et ils contribuent au modèle économique de l'entreprise. Par exemple, on a une activité textile à Perorade où on a
quelque chose de nouveau d'ailleurs au niveau du sport, non ? Au niveau des produits.
Un des nouveaux maillots.
Oui.
Et puis, on a les couturières qui sont là, qui coudent des t-shirts à Perorade sur un business model qui est incroyable sur l'univers du textile. Ou si vous avez envie de faire un cadeau pour votre femme avec un t-shirt avec un petit cœur, je vous invite à aller voir notre site internet.
Ma photo, je vais mettre ma photo.
C'est possible, les équipes sont là. Oui. C'est comme en faisant ça chez FMS, c'est aussi un achat solidaire.
Voilà.
Et je pense qu'on doit tous être réveillés sur cet aspect-là. Et en tout cas, nous, on est très fiers chez FMS de porter et puis d'avoir cette collaboration avec Aima.
Très bien. Bah, c'est sympa. FMS, ça mériterait d'être une association. Ah, alors, c'est dingue. C'est un compliment. On va faire notre dernière pause, écouter un petit peu de musique. On arrivera à la conclusion de cette émission. À tout de suite. Et voilà un petit Billy Ocean. Moi, je vous dis, ça sent déjà le printemps. Hein. D'ailleurs, il y a les oiseaux et tout ça qui le disent à leur manière. On a bien senti que ça va venir. Alors, on est à la dernière partie de cette émission. On va parler un petit peu aussi de l'actualité, si vous en avez, et les projets, parce qu'on a bien compris que tout ça, c'est sur une pente ascendante. Et donc, qu'est-ce qui nous attend dans quelques temps avec vos activités ?
Pour 2026, nous, l'objectif, c'est continuer notre structuration, sécuriser aussi notre activité. Mais on a des projets. On souhaite continuer aussi le développement des achats responsables auprès des collectivités, notamment, puisque pour eux, le temps est tellement morose que... On leur permet d'acheter du mobilier et d'équiper leur structure. On souhaite aussi développer les achats responsables en 2026 sur le bassin de Lac auprès des très grosses entreprises pour viser une nouvelle clientèle qui ont les moyens et qui eux aussi sont dans des démarches sociale et environnementale importante. Mmh. Et on a aussi un projet de construction sur notre terrain à Osserain.
D'accord.
Pour rapatrier notre hangar humanitaire. Mmh. Aujourd'hui, on est locataire pour devenir propriétaire de ce hangar humanitaire.
Ah oui, ça ferait des... Oui. Effectivement. Alors, est-ce que, parce que j'ai découvert tout à l'heure cette législation qui a existé pour tout ce qui est public, d'avoir un pourcentage de matériel tel que le vôtre, est-ce que c'est transposable et envisageable sur le privé ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une législation qui dirait que les entreprises privées pourraient avoir aussi un petit pourcentage obligatoire de, je ne sais pas, est-ce que c'est possible ça ? Est-ce que c'est dans les tiroirs d'après vous ?
Après... je pense pas que c'est dans les tiroirs, parce que malgré tout on ne pourra pas supprimer la fabrication du neuf. Mmh. Parce que si on enlève le neuf, on n'a plus le réemploi.
Ah oui.
Donc oui. Il faut pas qu'on aille tout dans le réemploi non plus.
Oui, non, pas 100%, mais bon, un petit pourcentage.
Non, après oui, s'il y a des choses qui se mettent en place pour accompagner, mais je pense que dans le privé c'est plus compliqué à mettre en place que dans le public.
Mmh. Oui.
Parce que même dans le public, on voit aujourd'hui. Alors nous, on a la chance sur les deux départements, que ce soit Pyrénées-Atlantiques ou même les Landes, justement, la politique est mise en place, c'est de travailler justement avec l'économie sociale et solidaire. Mm-hmm. Le réemploi, on travaille avec beaucoup de communautés de communes. La dernière en date ici, c'est la MAX,
oui.
Où on a équipé leur nouveau site de sorte Osgore, mm-hmm. avec un partenariat avec Collectivité Services. Qui
oui.
est une entreprise qui est sur le 64 et 40, mmh. qui est notre partenaire dans l'aménagement. Et c'est vrai que ces comités d'agglomération, que ce soit au Pays Basque, en Béarn, ici dans les Landes, nous encouragent à continuer dans ce sens-là. Mmh. Donc c'est vrai que pour nous, le projet, comme disait Mathieu, c'est de développer ces partenariats-là,
oui.
travailler avec les grosses entreprises.
Mmh.
Et les petites entreprises, hein. On n'oublie personne, parce que
oui, oui.
Quand on parle aujourd'hui de pouvoir d'achat, de budget, on est une réponse, on est une mmh. solution, il y en a d'autres, hein. Mais on fait partie des solutions qui peuvent être proposées.
Mmh. D'accord. Bah, nous aussi, en tant que radio, on peut avoir besoin, hein. Vous avez vu qu'on a du matériel qui arrive un peu d'occasion, donc nous aussi, on fait du réemploi comme on peut, parce que effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, hein. Qu'on soit sensible ou pas à la cause environnementale et à l'inclusion par le travail, il y a aussi une contrainte là, qu'on ne peut pas éviter. Et FMS, qu'est-ce que ça dit, FMS ?
FMS a pour ambition, hein, c'est de continuer sa mission. Hein, sa mission, donc, c'est créer de l'emploi sur des personnes en situation de handicap. Et on a un fort développement jusqu'à la création. Et là, l'ambition, c'est de continuer, d'ouvrir de l'emploi, de développer nos secteurs d'activité. Et même, pourquoi pas, en créer... des nouveaux, ça on va peut-être pouvoir vous le dire d'ici quelques mois, mais la mission, elle est là, on est bien ancré et on veut continuer à aider les personnes qui sont pour un moment donné de leur vie sorties d'un schéma classique, et on met plein de choses en place, des parcours, des possibles qui permettent aux personnes de retrouver l'emploi au sein de notre entreprise.
Voilà.
Donc, voilà. Et puis du coup on est fiers d'avoir foi en la nature humaine et de se dire que les actions comme EMA, comme FMS, ça donne foi en l'avenir, et ça c'est important.
Très bien. On finira sur ce mot de la fin de sourire, hein, voilà, qui est le mot d'espoir, parce que on en a besoin en ce moment, et c'est vrai que nous aussi on reçoit plein de gens ici et qui se battent pas pour eux mais pour les autres, voilà, et ça c'est important qu'on continue tous à le faire, voilà. Merci beaucoup d'être venu, vraiment c'était sympa vraiment de découvrir vos actions, et voilà, et puis c'est toujours sympa de rencontrer des gens qui sont entre guillemets utile. Voilà. Mmh. Merci à vous.
Et merci Jean-Philippe pour ton accueil. Souvenir FM, les locaux sont incroyables. Il faut venir voir un axe. Et
ah oui.
Jean-Philippe, il est top. Merci.
Moi-même, je suis du réemploi. Vous m'avez vu.
Merci.
Merci.
Merci. Merci, au revoir.